Le journal vous est présenté par Thomas Larabi. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Après 3 mois d'audience, la Cour d'assises spéciale de Paris a rendu son verdict au procès des attentats de janvier 2015. Des peines allant de 4 ans de prison jusqu'à la perpétuité ont été prononcées contre les 14 accusés. On y revient en détail avec Florence Turme au début de ce journal. Des premières vaccinations dès la dernière semaine de décembre pour les personnes jugées prioritaires. Rendez-vous à la fin du printemps pour les autres. Le gouvernement a dévoilé sa stratégie vaccinale devant l'Assemblée qui a ensuite débattu sans voter. Une stratégie encore en attente du feu vert de l'Agence européenne du médicament qui devrait autoriser la mise sur le marché du vaccin Pfizer lundi prochain. Et puis la justice britannique reconnaît pour la première fois le rôle de la pollution de l'air dans un décès, celui d'une jeune fille de 9 ans décédée d'une violente crise d'asthme en plein pic de pollution à Londres. Pour revenir sur cette décision inédite et savoir si elle pourrait donner des idées aux juges français, notre invitée ce soir est Mathilde Autreau-Boutonnet, professeure de droit à Aix-Marseille et spécialiste en droit de l'environnement. C'est la fin d'un procès historique. Le verdict du procès des attentats de janvier 2015 est tombé après 3 mois d'audience avec des peines allant de 4 ans de prison jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité contre 14 personnes reconnues coupables d'avoir assisté les auteurs des attaques contre Charlie Hebdo, une policière de Montrouge et l'hypercachère. Les précisions de Florence Turme.
Les 5 magistrats professionnels de la cour d'assises sont restés pour la plupart des accusés en deçà des réquisitions du parquet national antiterroriste. Ils les ont toutefois suivis concernant les fuyards. Mohamed Belloussine, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, et Ayad Boumediene, la compagne d'Amédi Coulibaly, 30 ans de réclusion criminelle. La cour retient la plus lourde charge, la complicité de crimes terroristes à l'encontre d'Ali Riza Polat pour son rôle particulièrement actif dans la préparation des attentats. 30 ans de réclusion criminelle prononcée au lieu de la perpétuité requise par l'accusation. Et c'est important, cette complicité vise non seulement les actes terroristes commis par Amédi Coulibaly, mais aussi par les frères Kouachi. La cour a établi un lien indéniable entre les 3 auteurs et leurs actions menées de manière concertée. Le verdict distingue clairement ceux qui avaient une proximité, une relation directe avec Amédi Coulibaly, Willy Prévost, 13 ans de réclusion, Michael Pastor-Alouatic, 18 ans contre les 20 requis par l'accusation. Il s'est pris la tête dans ses mains en entendant la peine prononcée. Amar Ramdani, enfin, pour qui la cour a alourdi la peine demandée et prononcé le maximum prévu par la loi, 20 ans de réclusion. En revanche, le président Régis de Jorna a écarté la qualification d'association de malfaiteurs terroristes pour les 7 autres accusés, une infraction que la défense s'était employée à démonter en dénonçant un dossier vide de preuves. Pour autant, elle n'a pas obtenu les acquittements qu'elle demandait. Tous les accusés sont reconnus coupables, mais à des degrés divers, d'avoir apporté un soutien logistique aux auteurs des attentats.
Et l'avocat d'Ali Riza Polat annonce que son client va faire appel de sa condamnation à 30 ans de prison. Des condamnations lourdes, mais pas maximales, on le disait, mais surtout des condamnations dont le sens va au-delà des peines prononcées, selon Maître Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo. Écoutez.
Il n'y a pas à commenter, il y a à prendre acte de ces peines. Maintenant, ce qui est peut-être plus important, c'est le message qui est délivré par la société française au travers de sa justice. C'était le procès d'une nébuleuse, une nébuleuse de personnes plus ou moins proches des terroristes, ayant fourni plus ou moins d'aide à ces terroristes. Et ce que dit cette décision, c'est que sans cette nébuleuse, il n'y a pas d'attentat. Sans la nébuleuse, il n'y a pas de terrorisme. Et que toute personne qui participe à cette nébuleuse peut être sanctionné très sévèrement. Et c'est évidemment nécessaire au regard de la situation de notre société et du pays. Et j'espère que ce message sera entendu. Alors, il ressuscitera personne, mais peut-être que ça évitera d'autres drames de se produire. J'espère que on entendra qu'en aucun cas, on ne peut participer de près ou de loin à aider quelque terroriste que ce soit.
Maître Richard Malka au micro de Florence Turme. Le gouvernement dévoile sa stratégie vaccinale avec des premières vaccinations dès la dernière semaine de décembre pour les personnes jugées prioritaires. En revanche, pour les autres, il faudra attendre la fin du printemps. Après, il ne faut pas rater ce virage des vaccins, a martelé Jean Castex devant l'Assemblée nationale après avoir connu des cafouillages sur les tests et les masques. Les exposés du Premier ministre et du ministre de la Santé, Olivier Véran, ont été suivis d'un débat sans vote des députés. Le récit de Solène Cresson.
Les premières vaccinations arriveront donc dans un peu moins de 2 semaines et elles concerneront les personnes âgées dans les EHPAD. 1 million de personnes, a dit Jean Castex devant les députés.
Cette première phase s'échelonnera sur une période de 6 à 8 semaines pour tenir compte notamment du délai de 21 jours entre la première vaccination et le rappel.
Une première phase conditionnée à l'avis de la Haute Autorité de Santé qui sera rendue, selon le Premier ministre, dans la foulée de la décision européenne. Dans un deuxième temps, seront vaccinées 14 millions de personnes à risque, les personnes âgées qui habitent chez elles, celles avec des comorbidités, mais aussi les professionnels de santé. Et c'est à ce moment-là que la médecine de ville va jouer un rôle important, ce que réclamaient les médecins généralistes.
Chacun devra pouvoir se faire vacciner par un professionnel de santé à côté de chez lui, qu'il connaît et en qui il a confiance.
Pour le reste de la population, ce ne sera qu'à la fin du printemps et non au début, comme indiqué il y a 2 semaines. Jean Castex a aussi tenu à rassurer sur l'efficacité et surtout la fiabilité du vaccin parce que l'objectif de ce débat parlementaire, c'est d'obtenir la confiance des députés et donc, à travers eux, des Français. Le chef du gouvernement fera le même exercice demain, cette fois devant les sénateurs.
Et ce soir, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, estime que les 27 pays de l'Union devraient pouvoir commencer à vacciner le même jour et avant la fin de l'année. Le top départ devra d'abord être donné le 21 décembre par l'autorisation de mise sur le marché du vaccin Pfizer par l'Agence européenne du médicament. Après 5 théâtres hier, les professionnels du cinéma annoncent avoir saisi le Conseil d'État en urgence pour contester le maintien de leur fermeture malgré la fin du deuxième confinement. Les lieux culturels sont toujours fermés pour une durée indéterminée. La date du 7 janvier est évoquée. Par ailleurs, et bien que ces chiffres fluctuent de jour en jour, à noter que 17 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés ces dernières 24 heures. Le gouvernement souhaitait un chiffre en dessous des 5 000 contaminations par jour pour ouvrir cinéma, théâtres et musées. À Marseille, Benoît Payan est bien candidat pour reprendre le fauteuil de maire. L'actuel premier adjoint socialiste l'a confirmé 24 heures après la démission de Michel Rubirola pour raison de santé, après 6 mois seulement de mandat. Sauf démission spectaculaire de nombreux élus, le conseil municipal devrait choisir un nouvel édile lundi. Alors que la désertification médicale dans les campagnes est un sujet toujours plus brûlant, l'association des maires ruraux tire à nouveau la sonnette d'alarme. D'après une étude qu'il publie aujourd'hui, les habitants des zones rurales vivent en moyenne 2 ans de moins que ceux des zones urbaines. Un écart qui se creuse. Il y a 30 ans, la différence était de seulement 3 mois. Alors en pleine crise sanitaire, l'AMRF veut alerter sur la nécessité de remettre de la proximité dans l'organisation du service de santé, quitte à l'imposer aux médecins. Car si on en est là aujourd'hui, selon Michel Fournier, maire des Vouavres dans les Vosges et président de la MRF, c'est bien parce que l'État a affaibli les campagnes.
Il n'y a plus, en milieu rural, plus de réponse de médecins de proximité, c'est tout. Hein. Il n'y a plus non plus une orientation vers l'hôpital quand il y a nécessité d'une façon aussi rapide, etc. etc. Alors, effectivement, on ne va pas mettre des CHU à trifouiller, hein, mais on doit avoir une réponse santé équitable dans le milieu rural que dans le milieu urbain. Ça, c'est clair. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des mesures prises fortes aujourd'hui, un peu de courage pour dire, eh bien, ces mesures coercitives, elles doivent exister de manière à ce qu'il y ait des implantations de médecins dans tous les territoires. On sait très bien régler le problème des pharmacies. Pourquoi qu'on ne règle pas le problème des médecins de la même façon? À partir de l'instant où il y a une responsabilité d'État et la santé s'en est une, eh bien, on doit avoir des réponses de l'État. Ça fait 30 ans hein, que ce cheminement existe. Hein. Il ne faut pas l'oublier quand même. Ça veut dire mettre la responsabilité sur le gouvernement actuel et exclusivement sur ce gouvernement, ça serait une profonde erreur. Mais à un moment donné, il faut aussi avoir le courage, quand ça ne va plus, de dire bien maintenant, c'est fini.
Michel Fournier, le président de l'Association des maires ruraux de France, au micro de Rosalie Lafarge. C'est une première. La justice britannique reconnaît le rôle de la pollution de l'air dans un décès, celui d'Ella Adou Kissidebra, une jeune londonienne de 9 ans décédée d'une grave crise d'asthme après près de 3 ans de crise répétée et une 30aine d'hospitalisations liées à cette maladie. La jeune fille habitait près d'une route extrêmement fréquentée de la capitale anglaise et pour la première fois, en s'appuyant sur plusieurs expertises, le juge anglais fait le lien entre les pics de pollution enregistrés près du domicile de la victime et sa mort. Et alors, alors que chaque année en France, on estime que la pollution tue plus de 40 000 personnes, selon un rapport de l'Agence européenne pour l'environnement, le juge pénal français pourrait bien s'inspirer d'une telle décision. Pour en parler avec nous ce soir, Mathilde Autreau-Boutonnet, professeure de droit à Aix-Marseille et spécialiste en droit de l'environnement. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Comment avez-vous accueilli cette décision inédite ?
C'est vraiment une décision très intéressante, inédite en Angleterre, et puis bien sûr très originale aussi au regard du droit français qui connaît encore quelques lacunes sur ce point. En fait, ce qui est très intéressant dans cette décision, c'est que cette fois, c'est une décision qui porte sur la responsabilité. Donc, on peut se poser la question de savoir si, par exemple, l'État peut être responsable pour ce qu'on appelle sa carence fautive en matière de pollution de l'air. Donc, il s'agit cette fois pour des victimes, donc personnellement nommées, qui souffrent physiquement, de demander réparation pour le préjudice corporel lié ici à la pollution de l'air.
Est-ce qu'on peut imaginer que cette décision est une influence sur la justice française ?
On ne peut pas dire que du côté de la France, il ne se passe rien. L'État français ici me semble de plus en plus cerné par le Conseil d'État, par la Cour de justice de l'Union européenne, mais ce qui est original du côté de la décision ici britannique, c'est qu'en revanche, pour l'instant, on n'a jamais réussi à aller jusqu'à une condamnation en termes de dommages-intérêts ou à une condamnation pénale. Parce que sur ce point, ça bute. Ce qui fait que tout de même, la décision, à mon avis, anglaise est intéressante parce que ça peut donner une sorte de précédent, on va dire, puisque le juge français pourrait être lui aussi tenté demain de reconnaître ce lien de causalité entre une insuffisance d'action et une infraction précise. Alors, ce n'est pas exactement les mêmes qualifications, mais il s'agit de ce qu'on pourrait appeler un homicide involontaire. Et donc, il faudrait reconnaître la responsabilité, cette fois pénale, en matière d'homicide involontaire. La difficulté, c'est que dans toutes ces décisions, on a besoin d'expertise. Donc, le juge, il a besoin d'un discours scientifique, d'un expert qui appuie. Et là, ce qui est intéressant dans la décision effectivement anglaise, c'est qu'on voit bien, quand on lit pour l'instant les articles de presse, que l'expertise a été, à mon avis, déterminante pour démontrer le lien de causalité entre un acte, une carence fautive, ne pas agir ou laisser émettre certaines nuisances polluantes et l'aboutissement du fait générateur, c'est-à-dire ici l'homicide. Et plus cette expertise elle-même sera connue, plus elle sera utilisée par les juges, plus elle pourra également se propager dans d'autres États. Donc il est fort possible que demain, le juge judiciaire s'y mette lui aussi.
Vous parliez de possibilité de création d'un précédent par cette décision en Angleterre. Est-ce que ça nous éclaire un peu sur la place qu'a le droit dans la lutte pour la protection de l'environnement ? On est à l'heure où l'État ou les entreprises, quand on ne les contraint pas, en tout cas, semblent statiques. Quelle est la place du droit dans cette lutte ?
En tout cas, ce qui me semble important, c'est que de plus en plus, la lutte pour la protection de l'environnement, elle se joue à un niveau mondial. Certes, grâce à ce qu'on appelle le droit international qui impose des obligations aux États à un niveau mondial. Mais surtout, ce qui me semble intéressant, c'est de voir que les citoyens se tournent de plus en plus devant les juges, mais du côté des juges en interne, sur leur sol, en droit interne. Et donc, ils espèrent finalement que les différentes juridictions puissent répondre à certaines difficultés lorsque l'État se trouve défaillant. Et là, c'est exactement ça. On a finalement un État qui ne prend pas des décisions assez performantes en matière de pollution de l'air, et on a un juge qui vient lui rappeler qu'il va falloir réagir. Et chaque juge peut contribuer de par leur propres compétences à faire avancer le droit. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce sont aussi des juges étrangers qui, de plus en plus, peuvent influencer le juge français parce que les expertises circulent, parce que les connaissances scientifiques circulent. Le changement climatique se joue au niveau mondial et chaque juge national peut apporter sa contribution en condamnant l'État, voire les entreprises.
Merci Mathilde Autreau-Boutonnet d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur de droit à Aix-Marseille Université et spécialiste en droit de l'environnement. Une page culinaire avant de refermer ce journal avec un petit nouveau au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Et il s'agit du couscous porté vers la victoire par une candidature commune de l'Algérie, du Maroc, de la Mauritanie et de la Tunisie où les recettes de ce plat se déclinent environ à l'infini. Un plat emblématique, symbole du vivre ensemble. normes selon ces quatre pays. Le couscous rejoint là un club très fermé où il côtoiera entre autres le pain d'épices croate, la pizza napolitaine, mais aussi la gastronomie française entrée d'un bloc au patrimoine de l'UNESCO il y a 10 ans. Un mot de votre météo de demain avec de la pluie dans le sud-est, un ciel nuageux dans les Pyrénées et en Alsace, un temps clair partout ailleurs. Côté température, comptez 9 à Strasbourg, 10 à Lille, 11 à Paris et Limoges, 12 à Brest, 14 à Bordeaux et 16 à Marseille. Malgré la pluie, c'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Beneteau. À la technique, Laurie Vachon.